Mercredi, je vous dis pas bonjour et comme chaque mercredi, c'est spécial ciné avec les films projetés au cinéma LA en compagnie de Fanny. Bonjour Fanny.
Bonjour.
Et de Martine. Bonjour Martine.
Bonjour à tous.
Sans oublier Philippe. Bonjour Philippe.
Bonjour.
On commence ces projections, Philippe, avec My Lady.
C'est un drame juridique britannique. C'est réalisé par Richard Eyre, qui a réalisé beaucoup de films pour la BBC. C'est une adaptation d'un roman qui s'appelle L'intérêt de l'enfant, en français, The Children Act, dans sa version originale. C'est un roman de Ian McEwan qui est sorti en 2014. Et The Children Act, en fait, c'est une loi qui est sortie en 1989 en Grande-Bretagne et qui a un peu révolutionné le droit de l'enfance, en fait, en plaçant, pendant un conflit familial, en plaçant l'intérêt de l'enfant au-dessus de tout. Voilà. Et donc, ce roman et ce film, du coup, illustrent un peu ben, justement la complexité d'application de cette loi. Hein, parce que c'est, voilà, faut trancher entre l'intérêt de l'enfant et puis tout le reste. Donc, on va suivre l'histoire de Fiona May, qui est une juge aux affaires familiales à la Haute Cour de justice d'Angleterre et du Pays de Galles, qui est interprétée par Emma Thompson, qui a d'ailleurs, pour le film, assisté à des audiences de la Cour de justice avec le réalisateur. Hein, voilà, ils sont vraiment plongés dans le rôle. Cette juge, donc, est accaparée par son métier à fond. Même, elle va délaisser un petit peu son mari, hein, voilà, qui va même lui annoncer qu'il va la tromper, hein, directement, voilà, comme ça, il est tout seul. Et dans le même temps, justement, bah, sur son plan professionnel, elle doit décider si, oui ou non, elle autorise une transfusion sanguine d'un jeune, d'adolescent de 17 ans qui s'appelle Adam Henry, qui est hospitalisé pour une leucémie. Le problème, c'est que ses parents sont témoins de Jéhovah et sont opposés hein, farouchement à toute transfusion de sanguine à leur fils, tout sang qui vient d'une autre personne. L'adolescent, lui, est un peu du même avis. Enfin, voilà, il suit un peu justement l'avis de ses parents. Le problème, c'est que sans cette transfusion, eh bien, malheureusement, il risque de mourir ou d'avoir des séquelles irréversibles. Donc Fiona, cette juge, doit trancher justement entre toutes ces considérations morales, religieuses et juridiques dans le principe d'intérêt de l'enfant, en fait. Voilà, est-ce qu'on doit le soigner par tous les moyens, est-ce qu'il doit vivre, ou est-ce qu'on doit se référer à la vie de ses parents et de lui, hein, voilà. Elle va donc décider, contre toute attente, de rendre visite à cet adolescent. Voilà, pour essayer de voir, peser le pour et le contre, hein, comme on dit, tout ça. Et cette rencontre va un peu bouleverser justement la vie de ces deux protagonistes, la juge et l'enfant. Donc vous allez pouvoir découvrir ce film avec Emma Thompson, je le disais, avec Stanley Tucci, avec Fionn Whitehead dans le rôle d'Adam, hein, cette adolescence. D'ailleurs, son deuxième rôle au cinéma, il avait joué dans Dunkerque de Christopher Nolan.
My Lady à découvrir ce mercredi 29 août à 18h en version originale sous-titrée, ou bien le lundi 3 septembre à 21h en version française. Woman at War, Martine, c'est pour la suite au cinéma LA.
Une fable écologique, tragicomique, islandaise de Benedikt Erlingsson avec Aldora Gerhardsdóttir. C'est Alla, la cinquantaine, qui déclare la guerre à l'industrie locale de l'aluminium qui défigure son pays. Elle prend tous les risques pour protéger les hautes terres d'Islande. Mais la situation pourrait changer avec l'arrivée inattendue d'une petite orpheline dans sa vie. Alors c'est un vrai coup de cœur qui fait du bien, comme un grand bol d'air dans des paysages remarquables, un ton très particulier entre suspense et humour. On adore le caractère burlesque de l'histoire et le personnage épatant, généreuse de super-héroïne en guerre contre les lignes à haute tension, tel Don Quichotte contre les moulins à vent, ou l'héroïne, rappelez-vous, de Three Billboards, admirée récemment. C'est fort, c'est émouvant, c'est intelligent, ça aborde un sujet essentiel avec humour et légèreté. C'est excellent.
Woman at War, mercredi 29 à 20h au cinéma LA, en version originale sous-titrée. Fanny, le monde est à toi.
Un film de genre qui parle du monde d'aujourd'hui, réalisé par Romain Gavras, le fils de Costa Gavras, et un réalisateur de clips qui aime bien faire dans la provoque. Karim Leclou joue François, un petit dealer qui a du mal à couper le cordon avec sa mère et qui a le rêve de devenir le distributeur officiel de Mr Freeze au Maghreb, et part faire un dernier coup en Espagne pour réunir l'argent nécessaire à son projet. Il est entouré d'Isabelle Adjani, sa mère gangsta tarée qui se déguise en saoudienne pour aller piquer des sacs à main avec ses copines et qui a dilapidé toutes les économies de François. Il y a aussi Vincent Cassel, pas très futé et adepte de théorie du complot qu'il suit de près, les yeux rivés sur sa tablette connectée. On trouve aussi Oulaya Amamra, dans le rôle de l'amour de jeunesse de François. On l'avait découverte dans Divine il n'y a pas si longtemps et ça fait bien plaisir de la retrouver. Au casting, on a aussi François Damien et Philippe Catherine. Bref, un très joli casting. Le titre vient de Scarface, The World is Yours, étant une citation récurrente du film. Mais l'histoire de François, c'est tout le contraire. Il veut juste un petit pavillon pépère et avoir une vie tranquille et rangée. Ça ne l'intéresse pas d'avoir le monde entier. Il veut se sortir de sa vie de voyou. On se marre bien devant ce film, c'est rythmé, Adjani est hilarante, Cassel ne l'est pas beaucoup moins. Il y en a même qui disent que ça rappelle un peu Tarantino, Guy Ritchie ou les frères Cohen. Bref, c'est fun et décalé, vous ne devriez a priori pas vous ennuyer.
Le Monde est à toi à découvrir ce mercredi 29 août à 22h, le samedi 1er septembre à 21h ou bien le mardi 4 septembre également à 21h au cinéma. Il est Fanny, on poursuit avec Marie Chélèche.
La réalisatrice Saïfa Al-Mansour est connue pour son film Wajda, qui racontait les aventures d'une adolescente saoudienne qui cherche à s'acheter un vélo et par la même occasion à conquérir le droit de faire la course avec les garçons de son âge. Il lui a valu en 2012 de devenir la première femme à tourner un long métrage en Arabie Saoudite, qui était d'ailleurs officiellement le premier entièrement tourné et produit dans le pays. Ce coup-ci, comme dirait Roland, ça n'a rien à voir. A priori, puisque la réalisatrice a choisi de parler dans son second film de Mary Shelley, la géniale auteure de Frankenstein a seulement 18 ans. Je dis qu'elle a choisi ce sujet, mais c'est plutôt elle qui a été choisie par les producteurs pour faire ce biopic, qui ne la tentait pas particulièrement au départ. Mais finalement, le parallèle entre son combat pour trouver sa place en tant qu'artiste femme saoudienne et les difficultés de la jeune écrivaine à faire publier son chef-d'œuvre au début du 19e siècle en Grande-Bretagne, où les femmes étaient cantonnées à la poésie ou au roman courtois. Le film commence donc en 1814. Mary Wollstonecraft Godwin a alors 16 ans et entame une relation passionnée avec le poète Percy Shelley, avec qui elle s'enfuit. Condamnés par les bien-pensants, leur amour tumultueux se nourrit de leurs idées progressistes. 2 ans plus tard, le couple est invité à passer l'été à Genève, au bord du lac Léman, dans la demeure de Lord Byron. Lors d'une nuit d'orage, à la faveur d'un pari, Mary a l'idée du personnage de Frankenstein. Dans une société qui ne laissait aucune place aux femmes de lettres, Mary Shelley, 18 ans à peine, allait révolutionner la littérature et marquer la culture populaire à tout jamais. C'est un film britannique d'époque en costume finalement assez classique et peut-être un peu trop sage, mais Elle Fanning interprète le personnage très moderne de Mary Shelley à la perfection et confirme le talent et le charisme de la jeune actrice de 19 ans.
Mary Shelley à découvrir ou à redécouvrir ce jeudi 30 août à 18h en version originale sous-titrée. Fanny, on poursuit avec Mes frères.
C'est une histoire de famille créée en famille, puisque Bertrand Guéry a commencé à écrire le film avec son frère Thomas, comédien-danseur, puis reprend l'écriture avec sa compagne Sophie Davout et entraînera aussi ses enfants dans l'aventure en tant qu'acteur dans le film. Deux frères, anciens rockers, vivent désormais à l'Île-Dieu après avoir eu une carrière sur la scène rock indé à la fin des années 90. Eddie s'est réfugié dans le mutisme depuis 10 ans après un accident, tandis que son frère, Rocco, père de Simon, alcoolique, aigri et assez invivable pour son frère et son fils, se voit devenir de plus en plus prisonnier de son corps à cause de la maladie de l'homme de pierre dont il est atteint. Un jour, leur sœur Lola réapparaît dans leur vie et les langues vont se délier, les secrets vont peu à peu être dévoilés. Les habitants de l'Île-Dieu ont été très impliqués dans le tournage du film pour la logistique, la figuration, la fanfare de Saint-Hilaire, le club de twirling. L'Île-Dieu, c'est plus qu'un décor, c'est aussi un personnage du film. Et elle est d'ailleurs très bien filmée. Malgré quelques maladresses, le film est touchant, il y a des scènes super belles, il est magnifié. Même si c'est un sujet grave qui est traité, avec un fond de non-dit, la maladie de Rocco et la mort qui n'est jamais très loin, la musique donne lieu à des scènes pleines de vie et des moments vraiment très joyeux. D'ailleurs, Bertrand Guéry a plutôt voulu en faire une ode à la vie. Et puis en allant voir ce film, vous faites une bonne action, puisque la moitié des bénéfices seront reversés à la recherche sur la maladie de l'homme de pierre.
Mes frères, deux diffusions cette semaine au cinéma Élé, le jeudi 30 août à 20h15 ou bien le mardi 4 septembre dès 18h. Paranoïa, Fanny, c'est pour la suite au cinéma Ellis.
C'est une nouvelle expérience cinématographique de la part de Steven Soderbergh, le réalisateur des Oceans 11, 12 et 13, d'Erin Brockovich et autres sexes, mensonges et vidéos, qui rêve depuis longtemps de réaliser un film d'horreur, mais pas sûr qu'on le puisse vraiment définir Paranoia comme de l'horreur pure, mais plutôt comme un film cauchemar, que le réalisateur a filmé avec un iPhone 7 Pro dans un hôpital désaffecté pas loin de New York. Et ça nous donne un thriller à petit budget, un film mineur mais il n'en reste pas moins digne d'intérêt. Claire Foy, que l'on a pu voir dans la peau de la reine Elisabeth II dans la série The Crown, interprète avec beaucoup de talent Sawyer, une jeune femme qui se voit enfermée dans une institution psychiatrique contre son gré parce qu'elle est convaincue d'être harcelée et que tout le monde la croit complètement parano. Ça finit même par lui monter à la tête au point qu'elle se demande elle-même si c'est bien réel ou si elle ne commence pas à perdre les pédales. Soderbergh ne rate pas l'occasion de critiquer le système de santé américain dans son film, comme il l'avait déjà fait dans Effets secondaires en 2013, et il s'ancre parfaitement dans l'ère de MeToo en abordant le thème du harcèlement, de la réception par l'entourage de la victime et plus globalement de la toxicité masculine. Enfin, si vous avez envie de frissonner au cinéma, il faut aller voir Paranoia, ce thriller psychologique bien rythmé qui jouera avec vos nerfs.
Paranoia, le jeudi 30 août, dès 22h15, au cinéma Ellis. Un film plus un atelier, c'est Capitaine Morten, Fanny.
Morten s'ennuie chez la méchante Annabelle, qui le garde pendant que son père, le capitaine Vix, vogue sur les mers à bord de son bateau la Salamandre. Morten aimerait bien partir avec son père, mais en attendant d'être assez grand, il se fabrique son propre navire miniature. Un étrange magicien fait halte dans ce village de pêcheurs pour présenter une machine à rétrécir. Pendant sa démonstration, tout part en vrille et un nuage de poussière s'échappe de son invention bizarre et va rétrécir Morten, qui sera alors de taille pour embarquer sur son bateau miniature avec des insectes pour équipage qui rappellent étrangement les humains qui faisaient partie de sa vie. Capitaine Morten et la reine des araignées est d'abord un film de pirates, avec un trésor convoité par l'horrible Annabelle et son complice non moins horrible Stinger, des mutineries et un naufrage sur une île déserte. Mais tout ça vire au fantastique quand Morten est rétréci et c'est un vrai plaisir de voir le jeune garçon plein d'imagination et débrouillard gagner ses galons de capitaine. Avant d'être un film d'animation, Capitaine Morten a été une pièce de théâtre, puis un livre pour enfants au succès phénoménal en Estonie. Mais l'histoire de Morten vient en fait de bien plus loin, lorsque l'auteur passait ses vacances en bord de mer et s'amusait à fabriquer tout un tas d'objets avec ce qui lui tombait sous la main. L'auteur aux multiples talents de la pièce et du livre Caspar Gentis réalise ici son premier long métrage en stop motion avec le studio estonien New Q Film, plus ancien studio de stop motion au monde toujours en activité. À mi-chemin entre la photo et la vidéo, la stop motion ou animation en volume ou encore animation image par image est une technique d'animation qui consiste à mettre en mouvement des objets, des personnages en pâte à modeler ou des marionnettes articulées comme dans Capitaine Morten. On prend une photo, puis on déplace légèrement les personnages et objets, puis on reprend une photo. Lorsque l'on regarde les photos les unes à la suite des autres, on a l'impression que les personnages sont en mouvement. Mais il faut prendre un paquet de photos pour faire un film de la durée de Capitaine Morten, et ça prend beaucoup de temps et demande beaucoup de patience. C'est ce que je proposerai aux spectateurs de découvrir lors d'un atelier après le film. C'est conseillé à partir de 6 ans, et sans modération pour toute la famille.
Capitaine Morten, atelier jeune public et film, le samedi 1er septembre, dès 15h30. Philippe, on poursuit avec Neuilly, sa mère, sa mère.
C'est la suite de Neuilly, sa mère, hein, qui était sortie en 2009, et réalisée là aussi par Gabriel-Julien Laferrière. Alors on retrouve Samy Ben Boudaoud, qu'on avait laissé en 2008, où il quittait sa cité de Chalon-sur-Saône, où il est parti habiter chez sa tante à Neuilly-sur-Seine. Hein, c'était le changement pour lui, il est passé de... cité sensible un peu à une espèce de vide château du côté de Neuilly-sur-Seine avec son cousin Charles de Chazelle qui était adorateur de Nicolas Sarkozy hein, qui était à l'époque président de la République. Eh bien voilà, on les retrouve tous les deux, les mêmes acteurs, presque 10 ans plus tard. Alors du coup, Sarkozy a disparu de la scène politique. Hein, et puis c'est un peu le point de départ de cette suite Neuilly, sa mère, sa mère. puisqu'on va suivre eh bien, un peu plus du coup Charles qui est, on va dire, endeuillé hein, par la défaite de Nicolas Sarkozy. Il y a Hollande qui a gagné après, donc lui il est fou, puisqu'il se rêvait un peu futur président de la République. Malheureusement, il loupe son bac deux fois. Enfin voilà, c'est un peu pour lui la descente aux enfers, puisque son papa également, qui était un industriel, qui avait fait fortune, tout ça, eh bien, il est épinglé par le fisc, notamment pour fraude fiscale, dépossédé de ses biens. Enfin voilà, tout ça, ça va pas bien chez eux. Ils n'ont pas d'autre choix que d'aller loger chez Samy, du coup, qui habite à Nanterre. Voilà, cité encore là aussi sensible. Donc, c'est un peu le même principe que dans le premier film, mais dans l'autre sens, en fait. Voilà, là, c'était un gamin des cités qui allait dans une cité un peu plus riche. Eh bien, là, c'est le contraire. Hein. Charles de Chazelle s'en va du côté de Nanterre. Et bah, cela, c'est le point de départ hein, de bah, tout ce qu'on peut trouver. Alors, il y a du bien et du moins bien, bien sûr. Hein, vous en doutez, il va y avoir quelques clichés un peu. À découvrir donc Neuilly, sa mère, avec les mêmes acteurs, Samy Seguir et Jérémy Denisti. Il y a également Valérie Lemercier, Denis Podalydès, François-Xavier de Maison ou encore Élisée Moon, Boudère et Josiane Balasco. Voilà, bonne belle brochette d'acteurs pour cette suite de Neuilly, sa mère.
Neuilly, sa mère, c'est le samedi 1er septembre dès 18h. Fanny, Tamara, le volume 2.
Dans ce deuxième volume, Tamara quitte sa province natale pour aller faire ses études à Paris, emmenant avec elle sa copine Sam. Bon, c'est pas évident de se loger à Paris, et elle tombe sur quantité d'apparts plutôt pourris, ce qui les décide à aller faire une coloc avec Wagner, le gros lourdeau du collège, dans un beau et spacieux appartement dans la capitale. Manque de bol, elles ne sont pas les seules sur le coup, et un des futurs colocs se trouve être en fait Diego, l'ex de Tamara, son grand amour de qui elle est séparée depuis 2 ans. Tant pis, elle fera avec. Surtout qu'elle rencontre James, le mec parfait selon ses critères, étudiant, photographe, mannequin, DJ et beau en plus. Et James est une star sur les réseaux sociaux, alors Tamara est bien destinée à en devenir une aussi, pour le faire succomber à ses charmes. C'est donc une nouvelle étape dans la vie de notre héroïne que l'on vit avec elle, et on retrouve les acteurs Héloïse Martin et Ryan Bensetti, qui eux aussi ont grandi et pris de l'assurance, leur carrière ayant décollé suite au premier Tamara, tiré de la bande dessinée de Dara Cesidrou. À la réalisation, c'est toujours Alexandre Castagnetti qui a réussi à trouver le temps de réaliser la colle entre les deux Tamara, autant dire qu'il ne perd pas de temps puisque le premier date d'il y a 2 ans. Bon, c'est pas super original tout ça, mais c'est sympa de retrouver l'attachante Tamara, c'est vivant et comme les acteurs sont potes dans la vraie vie, ils partagent sans problème leur bonne humeur. Mention spéciale à Sylvie Testu qui joue la mère de Tamara et à Blanche Gardin, une de ses amies qui nous offre des répliques vraiment drôles.
Tamara, volume 2, à découvrir ce dimanche 2 septembre dès 18h. Une pluie sans fin, Fanny.
Il pleut sans fin sur la ville de Changning, dans la province du Hunan, au sud de la Chine. On est en 97, à quelques mois de la rétrocession de Hong Kong par la Grande-Bretagne, et la Chine va vivre de grands changements. Yu Gowei se rêve détective entre 2 attrapages de petits voleurs dans la vieille usine dont il est chef de sécurité. Alors que la police piétine dans une enquête sur une série de meurtres commis sur les jeunes femmes, Yu Gowei voit l'opportunité de leur donner un coup de main en se lançant à la poursuite du tueur jusqu'à devenir une véritable obsession pour lui et sa raison de vivre. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'il pensait. Il avait un peu surestimé son talent d'inspecteur et malgré toute la bonne volonté qu'il met dans sa quête, il se met régulièrement en danger, notamment lors d'une course-poursuite sous la pluie magnifiquement mise en scène et tombe petit à petit dans une spirale infernale qui n'arrive pas à stopper. Et ce n'est pas par hasard si le réalisateur Dong Yoo a choisi de situer l'action en 97. Il dit, je cite, « À mon avis, l'année 97 a marqué un tournant décisif dans l'histoire sociale chinoise des années 90. Non seulement Hong Kong a été restitué à la Chine et ce qui a eu une influence profonde sur la société chinoise, mais les barrières entre les classes sociales se sont érigées avec force. Pour la Chine communiste, la décennie 90 commence en 89 et s'achève en 97. Car après 97, la société chinoise change d'époque. Les grandes entreprises d'État ont subi des réformes économiques et plusieurs usines d'État, dont la productivité était faible, ont été fermées. De nombreux ouvriers qui pensaient que leur outil de travail leur appartenait ont dû quitter ces usines étatiques où ils avaient travaillé toute leur vie. Il leur a fallu accepter l'idée qu'ils étaient dès lors abandonnés par la société et par l'époque. Fin de citation. Impressionnant premier film de Dong Yoo, qui a reçu le Grand Prix au dernier festival du film policier de Beaune, Une pluie sans fin est un film noir d'une grande puissance visuelle aux couleurs sombres et désaturées sur fond de changements économiques et sociaux d'une Chine industrielle en pleine transition vers un capitalisme d'État.
Une pluie sans fin à découvrir ce dimanche 2 septembre dès 21h en version originale sous-titrée. Et Fanny, on va finir avec les vieux fourneaux à ne pas louper.
Eddie Mitchell, Pierre Richard et Roland Giraud incarnent Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d'enfance de 70 ans, qui ont bien compris que le seul moyen de ne pas mourir, c'était de vieillir. Ils se retrouvent donc lors des obsèques de la femme d'Antoine, Lucette, qui avait caché une vieille histoire d'adultère à son mari. Ils découvrent ça et décident de partir régler cette histoire en Toscane sans rien dire à personne. Pierrot, Mimile et Sophie, la petite fille d'Antoine enceinte jusqu'au cou jouée par Alice Paul, se lancent alors à la poursuite pour l'empêcher de commettre un crime passionnel pour une histoire qui s'était passée 50 ans auparavant. À l'origine, Les Vieux Fourneaux, c'est une bande dessinée scénarisée par Wilfried Lupano et dessinée par Paul Coe, qui connaît un gros succès puisqu'elle s'est vendue à plus d'un million d'exemplaires. Le réalisateur Christophe Duturon réalise ici son premier long métrage en adaptant la BD avec Lupano au scénario. Elle est vraiment chouette, pleine d'humour et d'humanité. Elle parle de la vieillesse, mais toujours avec beaucoup de joie et de bienveillance. Il me semble que vous pouvez la trouver à la bibliothèque de l'Île-Dieu. Donc ça contribue à avoir des attentes élevées quant au film, surtout avec Pierre Richard, Eddie Mitchell et Roland Giraud dans les rôles des trois fourneaux. Le film est plutôt sympathique, on rigole, c'est peut-être un peu trop mou et gentillet, mais on passe quand même un bon moment.
Les Vieux Fourneaux, le lundi 3 septembre, dès 18h. Merci Fanny, rendez-vous en grande forme prochainement.
Oui, à bientôt.
Merci Martine, à très bientôt.
Tout à fait, à bientôt.
Et merci Philippe, à très bientôt également.
À bientôt.